Fantasy Moneyball, une présentation de la Fit Foodie. La Fit Foodie, c'est une entreprise d'ici qui fait des collations santé à haute teneur en protéines, mais qui goûte vraiment le dessert. Tout est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et chaque ingrédient est choisi soigneusement pour offrir la satiété et combler tous vos cravings. Vous commandez en ligne et vous récupérez ça facilement dans leur point de dépôt qui se situe à Trois-Rivières, Québec, Lévis et Drummondville. Si vous aimez bien manger sans sacrifier le goût, allez voir la vaste gamme de produits de la Fit Foodie au lafitfoodie.com. Fantasy Moneyball, saison 1, épisode 11. Jean-François Hervé, en compagnie de Jean-Philippe Marcoux, comme à l'habitude. Comment ça va, mon gars?
Super, toi?
Ça va très, très, très bien. Écoute, lendemain de draft, JP, aujourd'hui, on a participé à un super draft, une belle initiative d'ailleurs, pour remercier nos hôtes, ceux qui sont derrière l'organisation de tout ça. Un super draft avec plein d'autres podcasts, podcasters, dans le fond, de Fantasy Football, étant bien sûr voyons, j'ai le terme en anglais qui me vient, là, mais d'identifier c'est qui vraiment qui donne les meilleurs conseils, c'est qui les vrais de vrais experts. Mais blague à part, super le fun. JP, comment tu as trouvé ça hier avec plein d'autres experts autour de la table?
J'ai vraiment aimé ça. C'était fascinant d'avoir toutes les stratégies différentes. On était dans un draft à 12 équipes PPR et on a vu vraiment de tout. Donc, on ne peut pas juger tout de suite. On va attendre 17 semaines pour voir le résultat de la chose avant de nous couronner champion.
Effectivement. Mais honnêtement, vraiment, là, merci à la gang de Trop Fort pour la Ligue d'avoir organisé ça. C'est vraiment super le fun. Puis on a bien hâte à la saison qui s'en vient. JP, quand même une couple de nouvelles d'importance cette semaine avant de se lancer dans l'épisode. On a un épisode super intéressant, je trouve, aujourd'hui. Un épisode, je pense, qui va... Ben, je dis ça à chaque semaine, mais honnêtement... Un épisode qui va intéresser beaucoup les gens parce qu'on va parler des nos trois étoiles fantasy pour l'année à venir. On en a chacun identifié. Donc, je suis très nerveux aujourd'hui parce que là, je me mouille pour vrai. Je ne fais pas juste des petites analyses à gauche et à droite. Il faut que j'explique pourquoi j'aime tel ou tel gars. Vous allez voir, là, c'est purement sur l'émotion, purement sur des feelings qui ne s'expliquent pas. Tout est désimpondérable. Bref, rien de ça. Aucune analyse savante derrière mes choix. Blague à part, JP, avant de se lancer, on a quand même une couple de nouvelles intéressantes, notamment... Les fameuses depth charts. on s'enregistre pas. Je pense qu'il va bientôt falloir commencer à faire ça aussi avec des caméras, juste pour que vous voyez les faces de JP des fois. Les fameuses nouvelles de depth chart, là, on a beaucoup, beaucoup de backfield, de porteurs de ballon qui ont été identifiés comme étant les troisièmes running backs de leur équipe. Gars, je te donne des noms. Caleb Johnson, chez les Steelers de Pittsburgh, la depth chart l'identifie comme troisième porteur de ballon derrière Kenneth Gainwell et Jalen Warren. On a Trevion Anderson, qui lui aussi est apparemment troisième chez les Patriots. Jacory Crosky-Merritt, quatrième chez les Commanders, etc., etc. JP, est-ce que c'est le temps de vendre tous nos jeunes, de paniquer, de mettre la maison en feu puis d'aller se cacher dans le fin fond d'une grotte ou on se calme, on prend ça avec des pincettes puis on va prendre un bon verre d'eau?
On vend tout et on va chercher Kenneth Gainwell. C'est la solution en 2025. Non, pour vrai, JF, c'est d'un pathétique extrême. Depuis hier, je pense que c'est la seule chose que je reçois comme message. Ça et des commandes de ma blonde pour l'épicerie. Mais sinon, pour vrai, je trouve ça ridicule. C'est la même chose à chaque année. Je me souviens comme si c'était hier quand Bijan Robinson était deuxième sur la depth chart. C'est un move classique du coaching staff pour essayer de prouver quelque chose aux rookies. Ça ne veut absolument rien dire. Je sais qu'il y en a qui font un cas avec ça, mais si oui, tant mieux. Tu sais, d'avoir Trevion Anderson comme troisième running back.
Troisième sur la depth chart, oui.
Mais écoute, si le propriétaire de Anderson dans votre pool est en panique, c'est le temps de frapper fort pour ces gars-là. Je sais pas, puis pour vrai, dans les derniers jours, moi j'ai vu une baisse de Caleb Johnson dans les ADP, puis je pense que c'était même un peu avant la nouvelle, mais avec cette nouvelle-là, il ne remontera pas, donc pour vrai, c'est juste c'est des petits cadeaux juste avant la saison, selon moi.
Mm-hmm. Et on s'entend, là, à la fin de la journée, si vous êtes confiant, par exemple, que Caleb Johnson, c'est le meilleur porteur de ballon chez les Steelers, mettons qu'il ne starte pas les deux, trois premières semaines, c'est pas lui qui a le backfield direct en partant, restez confiant de votre analyse, restez confiant à votre call que ben, tu sais, Caleb Johnson, au fur et à mesure que la saison va évoluer, c'est lui qui va s'imposer comme le leader de ce backfield-là. C'est lui qui est le meilleur porteur de ballon. La même chose peut être dite pour Trevion, la même chose peut être dite pour Jacory. Fait que il y a aussi ça là-dedans. À un moment donné, il faut faire confiance en nos gars, puis en nos analyses, puis en nos
feelings. Puis c'est sûr que c'est le cas. Pour vrai, à part des quelques exceptions comme Saquon Barkley, même Bijan Robinson n'avait pas 80% des touches à sa première semaine. Genty, je m'attends même pas à ça. Puis c'est un gars avec un capital de draft extrême dans NFL. Donc c'est normal. C'est leur premier match professionnel. C'est vraiment stressant. Le coach, il va pas faire exprès de tout mettre la pression possible dessus. Donc ne pas paniquer. Mais ça fait des maudits beaux appâts à trader en début de saison si jamais les propriétaires sont déçus ou stressés.
Puis quelque chose à se rappeler dans la NFL, on en a parlé souvent au podcast, les carrières sont courtes, ça va très vite, la pression de gagner est énorme. Donc au final, si vous pensez, vous, est-ce que vous avez vu que Trevion Henderson est solidement le meilleur porteur de ballon de son équipe, à un moment donné, si c'est lui le meilleur, puis s'il monte dans les pratiques, dans les matchs, etc., les coachs sont pas fous, ils veulent gagner, ils vont le faire jouer, ils vont lui donner plus de touch.
Et c'est le cas.
Fait que voilà, ouais. Je pense que Trevion, c'est probablement le meilleur exemple de ça. Là. Il y a les flashs qui montent jusqu'ici, ça a l'air d'être un talent très spécial, encore plus qu'un Caleb Johnson ou un Jacory Crosby-Merritt. Fait que je m'inquiéterais pas trop, mettons, si j'étais un owner de Trevion. Caleb Johnson, par exemple, vous me vendez ça. Merci, bonsoir, c'est Kenneth Gainwell, comme a dit JP. C'est lui la solution dans ce backfield-là. Donc, sur ces excellents conseils, une autre nouvelle quand même intéressante, Stephon Diggs, il y avait un petit peu d'incertitude. Est-ce qu'il va jouer la première semaine? Est-ce qu'il va être blessé? Finalement, tout indique, là, selon les dernières nouvelles, que Stephon va être en uniforme, va commencer la saison.
Bonne nouvelle.
Merci, JP. On est content. On coche notre case. Vous cochez votre case sur votre carte bingo. JP est content. Et finalement, l'autre nouvelle quand même d'importance, Jalen Coker, le favori de plusieurs de nos auditeurs. Jalen Coker qui s'est blessé, qui va être absent au moins 4 semaines.
Oui, la porte est grande ouverte pour Xavier Leggett. Donc, son rôle risque d'être plus grand que certains pensaient. C'est à lui de faire ce qu'il peut avec ça. Puis Ted McMillan va...
Ça risque-tu d'y apporter une coupe de target de plus?
Oui, mais tu sais, je pense que les Panthers étaient clairs qu'ils voulaient jouer à 3 receveurs de passe sur le terrain en même temps. Donc, tu sais, je m'attendais pas que McMillan soit overfeed. Mais là, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Et peut-être aussi un petit peu plus de Chuba Hubbard. Moi, c'est peut-être ça que je m'attends le plus avec cette nouvelle-là.
J'aime ça. Super. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouvelles d'importance de la dernière semaine dans la NFL. Maintenant, un petit mot avant de débuter l'épisode. En bonne et due forme, comme vous le savez, on a lancé un Patreon, le Patreon officiel de Fantasy Moneyball. On est très, très content de voir déjà, on a déjà plus de 25, je pense, abonnés. Ça va très, très bien de ce côté-là. On a eu du très bon feedback par rapport au Draft Guide que je pense que plusieurs de nos auditeurs, plusieurs de nos abonnés qui s'en sont servis pour... voyons, dominer leur repêchage respectif. On a déjà même aussi du contenu audio exclusif qui est sorti dessus. Donc, je peux vous dire que JP et moi, on réfléchit énormément. On est constamment en train de trouver des nouvelles idées, du nouveau contenu à amener là. Si ce n'est pas déjà fait, allez visiter ça, patreon.com/fantasymoneyball. Vous avez aussi le lien sur notre Instagram. Vous avez le lien dans notre page RSS. Là. Bref, super facile à trouver, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Écoutez, vous pouvez aussi toujours faire un essai gratuit d'une semaine, voir un peu de quel bout on chauffe. Il y a de plus en plus de contenu qui va être déposé là-dessus. Donc, restez à l'affût. Puis merci énormément à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous n'avez pas idée à quel point qu'on est fiers puis qu'on est vraiment, vraiment motivés puis contents de voir le soutien que vous nous apportez. Donc, merci encore une fois. On se lance, JP. Avant de commencer, il y avait un mythe que tu voulais déboulonner. Le fameux mythe des Paydem. Ils l'ont payé, ils ont donné un gros contrat à tel gars ou tel gars. Bref, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça, JP?
Oui, ma nouvelle passion de JF maintenant, c'est de... Tu sais, je cours beaucoup, puis j'écoute des podcasts en courant. Et c'est ma passion, c'est d'écouter des podcasts de football et de sacrer pendant que j'entends certains commentaires des analystes. C'est un des plus gros mythes, selon moi, en fantasy, qui est utilisé et je dirais même galvaudé sur plusieurs joueurs. Tel joueur, il va avoir beaucoup de touches parce qu'ils l'ont payé, ils lui ont donné un gros contrat cette off-season, blablabla. Fait qu'il devrait, il devrait, il devrait. Puis écoute, j'ai un breaking news. Fait que j'ai vraiment un scoop pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Puis, assisez-vous comme il faut. Soyez prêts. 53 joueurs par équipe sont payés. Les 53 joueurs dans l'alignement ont un contrat et sont payés. Donc, de cherry-pick un joueur par-ci par-là et de penser que ce gars-là va avoir des touches parce qu'il y a un nouveau contrat ou un contrat un peu plus gros que l'autre joueur à sa position, c'est de la totale boule. Je dirais pas le mot complet.
Ouais.
Donc, je trouve ça un peu ridicule. Par contre, c'est certain qu'il y a un petit peu de politique dans le sport. Je ne vais pas aller à l'encontre de ça. C'est tout à fait normal que tu signes un beau contrat de 80 millions, 3 ans, un receveur de passe. C'est certain qu'il est dans les plans. Ça va de soi. Mais de galvauder des trucs par rapport à tel ou tel joueur, je trouve ça un peu ridicule. Puis, je n'ai même pas besoin de donner d'exemple de joueur. Vous savez exactement de quel genre de joueur je parle.
Ouais. Et dirais-tu, JP, qu'il y a certaines exceptions? C'est-à-dire, est-ce que... Je sais pas moi. Est-ce qu'il y a certains types de contrats, par exemple, une équipe qui donne un contrat de 4 ans à un corps arrière, qui a 80% du montant est garanti, est-ce que tu dirais, écoute, la première année, là, ils vont le laisser s'essayer, ils vont le laisser faire des erreurs, ils vont donner un peu de lousse. Y a-tu des exceptions qui s'appliquent pas à ça ou en général, vraiment, at large, ça vaut ce que ça vaut puis ça devrait pas être une donnée déterminante dans l'analyse de vos joueurs en fantasy?
C'est une bonne question, mais là, on rentre un peu plus dans le football que dans le fantasy. Je te dirais que oui, ils vont donner un petit peu plus de lousse à ce joueur-là pour performer, mais c'est une business de performance, c'est une business de business. Il y a beaucoup d'argent en jeu et il y a énormément de politique. Donc, tu sais, Trevor Lawrence, l'an passé, qui s'est blessé, Mac Jones, qui jouait quasiment aussi bien ou sinon mieux que Lawrence. Moi, je pense que s'il avait encore mal un petit peu, mais il était startable, Lawrence, je pense qu'on lui a dit de rester un petit peu sur le banc. Là, je spécule pas. Là. C'est vraiment, je dis que c'est une possibilité. Donc, même s'il y a le gros contrat par rapport à Mac Jones, c'est là que la politique rentre. Il y a des jobs en jeu. On veut gagner. On veut garder notre job de coach, de GM, de scout et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, vraiment complexe. Puis chaque organisation est totalement différente aussi.
Ouais. Et JP, tu vois, j'ai un exemple qui me vient en tête, une des plus grosses erreurs de ma carrière de pooler, Odell Beckham Jr. Son année recrue commence l'année, il est blessé. Il n'est même pas repêché dans la plupart des ligues redraft. Il y a un des thinking qui explique pourquoi il n'est pas repêché, c'est qu'ils ont déjà Victor Cruz, puis je pense Plaxico Burress à ce moment-là. Un bon duo de receveurs quand même, qui ont eu certains succès avec les Giants, avec Eli Manning. Moi, je me rappelle, puis... Écoute, comme je te dis, là, tous les DG dans la ligue, on se dit, Beckham va-tu avoir vraiment un rôle cette année? Il y a des gars devant lui, etc. Il arrive ses waivers, il reste une semaine de plus sur les waivers. Il n'est même pas pris dès l'instant où il devient disponible. Il reste une semaine de plus. Et là, il y a un gars qui s'en va le prendre. Puis finalement, bon, tout le monde connaît la suite. Là, il y a eu une saison recrue absolument extraordinaire. Il a été un league winner. Mais tu vois, à ce moment-là, moi, mon thinking, quand je voyais Odell Beckham, ses waivers, c'était justement de me dire, il y a déjà deux gars devant lui sur la depth chart, ils ont des contrats en poche, ils vont-tu vraiment les tasser pour la recrue? À un moment donné, si un joueur performe puis montre les flashs qu'Odell Beckham montrait, il va passer devant même les gros vétérans là, devant lui sur la depth chart. Là. Fait que faites confiance en votre œil, faites confiance en vos analyses. Si vous pensez que tel gars a plus de talent qu'un autre, il va finir par passer devant, c'est quasiment certain, là.
100% d'accord avec toi. Puis ta mémoire est bonne. Cruz était là. Plaxico Burress était parti. C'était Hakeem Nicks,
oui,
un wide que je détestais pas, qui était là avec les Giants. Mais tu sais, c'est ton point est vraiment bon. Puis bravo à tous ceux qui avaient ramassé Odell Beckham quand il avait vu jouer ses premiers snaps. C'était mon cas. C'est un des joueurs qui m'a fait le plus capoter dans ses premiers mouvements professionnels. Ça n'avait aucun sens.
Moi, la seule tristesse que j'ai par rapport à ce joueur-là, c'est que je pense que les deux premières saisons de sa carrière auront été ses meilleures saisons en carrière, malheureusement. Mais ce qu'il avait montré cette année-là, c'était, tu sais, au-delà des one-handed catch, là, c'était débile. Bref, merci JP. Je pense que c'est un très, très bon conseil. Puis c'est important là, de retenir ça. On en laisse par rapport au fameux contrat. JP, il y avait aussi quelque chose que tu voulais partager, un petit conseil que tu avais pour nos auditeurs avant qu'on se lance là, dans nos trois étoiles.
Un gros avertissement à dire avant la saison. La saison débute ce jeudi. C'est de ne pas s'emballer ni de se déballer. J'aime vraiment ça dire ça, même si ça ne se dit sûrement pas. Sur les résultats des premières semaines. Tu sais, premièrement, je ne me l'étais même pas marqué comme note, mais les premières semaines à chaque année dans NFL, il y a beaucoup moins de points qui est marqué. C'est plus difficile d'exécuter de l'offensive que de la disrupt de façon défensive. Donc, beaucoup moins de points, des performances fantasy décevantes, des nouveaux systèmes offensifs. Il y a eu tellement de changements de coach, il y a tellement de changements de coordinateur offensif. C'est plus de 25% des clubs dans la NFL. C'est fou, c'est vraiment beaucoup. Et bien sûr, les rookies, c'est leur premier snap comme professionnel. Donc, chaque année, il y en a qui tombent vraiment en mode panique.
Ouais.
Par contre, on a des indices des futurs busts de la saison dans les premières semaines. Donc, notre tâche à nous comme podcast et à vous comme pooleurs, c'est d'identifier c'est quoi les vraies tendances, qui sont les réels busts ou les plus belles surprises qui vont continuer dans le temps et de juste voir des contextes qui sont un petit peu décevants pour l'instant, mais que ça va s'améliorer au travail de la saison.
C'est qui, tu sais, c'est là, moi je trouve que c'est la chose la plus difficile, vraiment, comme DG de fantasy. Qui est un gars que je devrais sell high en ce moment? Qui est un gars que je devrais buy low? Qui, à l'inverse, est un vrai bust ou qui est vraiment en train de s'imposer comme une étoile montante? Tu sais, que vraiment, ce qu'on voit, c'est un art en soi. J'ai hâte qu'on en reparle dans les épisodes à venir, JP, parce que c'est pas mal. Tu sais, on a beaucoup parlé des waivers, comment c'est important durant une saison. C'est probablement ça la deuxième chose la plus importante. Le timing de vendre ou pas vendre un gars, d'aller chercher ou de pas aller chercher un gars, c'est vraiment excessivement important aussi.
T'as tellement raison. Puis l'addition de ça et les waivers, je pense que c'est quasiment plus important que le draft, bien honnêtement.
OK. Hey, puis comme je dis, j'ai vraiment hâte qu'on en rejase de tout ça parce que justement, moi, c'est... En tout cas, c'est vraiment... c'est tellement facile d'un gars qui a une grosse game, il y a bien des catchs, il y a bien des verges, t'es sûr que tu prends ça pour du catch, let's go, puis finalement, ben non, c'est un one-off, ou finalement, non, c'était quelque chose qu'il fallait. Bref, j'arrête là-dessus. J'ai hâte qu'on en parle, JP. On se lance maintenant dans nos trois étoiles de la saison. Fait que, comme on dit, ça le dit un peu par soi-même, c'est trois étoiles. Donc, on va chacun nommer trois joueurs. Et on a fait ça un peu il y a partir. Donc, la première étoile, c'est des joueurs qui sortent entre la deuxième ronde, le début de la deuxième ronde et la fin de la quatrième ronde. Et on parle ici des joueurs, des vrais MVP, les joueurs qui vont faire la différence pour votre équipe. Donc, un joueur généralement avec un ceiling de top 5 à sa position. Et la raison pour qu'on a exclu les joueurs qui sortent, qui sont des consensus en première ronde, c'est qu'on voulait identifier des joueurs que tout le monde qui sur le board avait une chance de repêcher. Donc, pas, tu sais, c'est bien facile de dire Jamar Chase. La réalité, c'est que tu ne repêches pas dans les trois premiers cette année, tu ne l'auras pas, Jamar Chase. Fait que c'est pas vraiment de valeur ajoutée pour nous de vous parler d'un gars comme ça. Donc, on voulait vous parler de gars que n'importe qui dans votre ligue, vous inclus, ont une chance d'avoir dans leur équipe. Pour ce qui est de la deuxième étoile, c'est un joueur qui n'est pas nécessairement un gros nom qui sort dans les premières rondes, sans être non plus un sleeper qui n'est pas partant. C'est généralement des gars qui sont partants, mais qui sont dans des offensives peut-être un petit peu moins spectaculaires, qui sont peut-être un petit peu plus bas sur la depth chart. Bref, donc, pas des gars qui sortent de nulle part, mais pas non plus des household names à leur position. Puis, sans être assurés de finir top 10 à leur position, de notre point de vue, c'est des joueurs qui pourraient, selon nos analyses, surperformer leur ADP puis vous donner une très, très grande valeur puis un avantage compétitif. Exemple récent qui est très extrême. Deux gars, Brian Thomas, Ladd McConkie l'an passé. Brian Thomas sortait quoi en 6, 7e ronde, JP? Ladd McConkie, je pense, c'était ça aussi, même plus loin. Ouais. Donc, deux gars qui ont fini, quoi, Brian Thomas 6e à la position, Ladd top 10 ou pas loin. On s'entend, c'est extrêmement difficile d'identifier ces joueurs-là d'une année à l'autre. Puis je pense, l'an dernier, même si on avait mis Brian Thomas ici, je pense pas que personne pouvait s'attendre à une saison aussi impressionnante de sa part. Je pense qu'on quelqu'un JP aurait dit qu'il voyait top 15, ça aurait été surprenant pour bien des gens. Donc top 6, on va pas vous promettre mer et monde, mais vraiment on a identifié des gars qu'on pense ont des bonnes chances de surperformer leur ADP puis de vous donner de très très belles valeurs. Puis finalement avec notre troisième étoile, ça va être des sleepers, des sleeper MVP, des joueurs donc qui sortent vraiment plus loin, qui sont loin d'être assurés d'un grand rôle en fantasy. Qui ont un grand, grand potentiel à nos yeux. Bref, des gambles qu'on aime beaucoup. JP, quelque chose à ajouter avant qu'on se lance?
Non, écoute, c'était parfait comme définition. J'ai rien à dire.
Excellent. Fait avec notre première étoile, JP, je te laisse y aller. C'est qui ta première étoile?
Écoute, je vais teaser un petit peu. Dans mes premiers drafts en baseball au mois d'avril-mai, j'étais incapable de ne pas drafter ce gars. C'est George Kittle. On en a vraiment parlé longtemps. C'est un gars qui a un avantage positionnel exceptionnel, qui sort toujours et encore troisième tight end, ça va de soi, puis il sort en début de 4. Moi, j'aurais pensé que rendu à ce stade-ci de la off-season, il serait fin de 2, début de 3. Fait que je suis quand même vraiment étonné. J'étais sûr, moi, qu'il aurait fini collé à Trey McBride dans les drafts.
Ouais.
Puis moi, je trouve qu'on a un avantage débile à bas prix. C'est, oui, ça a l'air vraiment cher, 4.1, mais il n'y a personne dans votre ligue autre que les propriétaires de McBride et Bowers qui vont partir chaque semaine avec 12, 13, 14 points automatiques au lieu d'avoir un tight end décevant à 8 points. Fait que d'avoir un tight end comme Kittle ou Bowers et McBride, pour moi, c'est quasiment comme avoir une défensive supplémentaire sur ton alignement, ce que je trouve débile.
Et JB, as-tu l'impression que le fait que McBride soit plus jeune, que Kittle a eu des saisons qui a été blessé, il a peut-être été moins constant, ça effraie certains DG? Il y a des gars qui se disent il a été bon l'an passé, nécessairement, ça va être un down year pour lui cette année. C'est-tu ça qui expliquerait cette espèce de disparité entre deux gars qui pourtant sont quand même proches statistiquement?
Bien, la jeunesse amène un je ne sais quoi dans le fantasy de plus excitant, même si le résultat risque d'être identique. T'sais, pour McBride et Kittle, à gager un 2, pour moi, les deux vont avoir une saison similaire en termes de points totaux. Puis on le dit et on le redit, mais c'est du name fatigue selon moi. Puis son contexte à Kittle est encore meilleur que toutes les années dernières. Il y a un bon, je te dirais même pas un élite, mais un bon receveur de passe et un. Ben en fait, deux bons receveurs de passe à San Francisco. Le meilleur receveur de passe, tant que moi, c'est Kittle là-bas pour la première fois possiblement de sa carrière. Donc, le champ est libre. McCaffrey, j'ai l'impression qu'on va légèrement moins l'utiliser. En fait, je le souhaite à tout le monde à San Francisco. Donc, écoute, une grosse incompréhension de ma part, mais au final, tant mieux pour les gens qui l'ont eu en fin de 3, début de 4. C'est tout un choix.
Excellent. Très bon pick, JP. Moi, de mon côté, j'ai identifié un porteur de ballon. Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati, Chase Brown, qui sort là, en fin de deuxième ronde, début de troisième ronde. On en a parlé, j'en ai glissé un mot dans notre épisode sur les porteurs de ballon. Le fait que des semaines 9 à 17 l'an dernier, Chase Brown était le quatrième porteur de ballon à points par match. Il avait 23,7 touches par match, 116 verges totales par match. Bref, des chiffres astronomiques très, très, très élevés. Évidemment, on a aussi dit plusieurs fois dans le podcast qu'il ne fallait pas, tu sais, que de prendre une photo de la saison dernière puis de l'appliquer à la saison à venir, c'était une recipe for disaster. Mais dans certains cas, je pense que la dernière saison peut aussi nous donner de très, très bons indices, surtout si le contexte ne change pas. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant de Chase Brown, c'est qu'il est complètement seul dans le backfield. L'an dernier, il y avait des questions. Est-ce que ça va être un split avec Zach Moss? Même les Bengals eux-mêmes n'avaient pas l'air convaincus de Chase Brown. Finalement, il a complètement tassé Zach Moss par la fin de la saison. Bon, Zach Moss était blessé, il n'était plus là, mais c'était le Chase Brown show. On est dans la même situation cette année. Il y a Taj Brooks, une recrue qui a été repêchée, mais qui est, en tout cas pour cette année, qui ne devrait pas menacer. Puis chez JP, toi de ton côté, tu n'es pas le plus grand fan de Taj Brooks niveau de talent. Pas un futur starter NFL, loin de là. Donc, il n'y a pas à court terme là, de menace pour son rôle. Et c'est une attaque qui devrait fonctionner à plein régime, encore une fois, cette année. Chase Brown, c'est un porteur de ballon aussi qu'on regarde l'an dernier, qui était relativement assez impliqué dans le passing game. Donc, ce n'est pas un porteur de ballon dont on dépend uniquement de ses courses pour faire des points. Même quand les Bengals vont tirer de l'arrière, il va rester dans le plan de match. Je m'attends, tu sais, on regarde un peu là, froidement, la ligne offensive, c'est pas tant amélioré. La défensive, c'est pas tant amélioré non plus. Ça va encore être une équipe qui va être impliquée dans sa large part de shootout. Donc, moi, j'aime beaucoup, basé sur ce que je vois l'an dernier, le fait qu'il y a peu de choses qui ont changé. J'aime le potentiel de ce gars-là. Je m'attends du gros, gros, gros volume. Je ne suis pas le joueur que je suis en amour avec le talent, mais niveau contexte, niveau volume annoncé, je pense que c'est un gars qui a vraiment un potentiel de finir top 5 à la position. Ce n'est pas le gars qui va réinventer, encore une fois, la position de porteur de ballon, mais les opportunités vont être là. Puis je m'attends, j'ai l'impression que ça va être très, très, très payant cette année, Chase Brown. Fait que JP, rien à dire. Hey, je suis surpris. Colin, je m'attendais à me faire roaster là, de
zéro.
Bord
en bord. Non, zéro. Je peux pas être en désaccord avec rien.
Hey, wow, OK. Écoutez, là, je pense que on va faire une pause dans l'épisode. Je vais aller me calmer puis je reviens après tout le monde. OK. Fait que deuxième étoile maintenant. Je l'ai déjà dit, ronde 5 à 8.12. On s'attend pas ici. On parle pas de quelqu'un qui va finir le premier à sa position, mais des gars qui risquent de surperformer leur ADP et de nous procurer de belles valeurs. JP, envoie donc.
DJ Moore, ouais, receveur qui sort 21e à sa position en début de cinquième ronde, qui est sorti, là, je vais mentionner ça, là, dans notre pool des podcasters hier en PPR, bien important à mentionner, 6.8.
Ouais.
Tout un choix, je ne mentionne plus quel club qui ont eu ce vol-là, mais félicitations. DJ Moore, qui est un très bon receveur dans la NFL, c'est pas un receveur élite, mais je pense qu'il va avoir enfin une situation un petit peu plus stable au niveau du poste de corps arrière, ce qui pourrait l'amener à battre sa grosse année avec Justin Fields. Puis au final, je pense que c'est relativement faisable. On a juste besoin d'un jeu correct, bon, de Caleb Williams.
Est-ce que tu y crois, JP? Ça, c'est une autre histoire?
Ben, correct, bon. Là, la barre n'est pas si haute que ça. Je pense que oui. Là. Je miserais un bon 75% là-dessus facile, mais on n'a pas besoin d'un jeu élite de Caleb pour que DJ Moore vale vraiment son pesant d'or puis batte 21e rang. Là. Pour moi, c'est quasiment impossible. Puis tu m'avais demandé, ça fait quelques semaines de tout ça, mais tu m'avais demandé est-ce que DJ Moore pourrait craquer le top 12, fait que devenir un wide 1.
Tu sais,
on en avait parlé quand tu m'avais posé la question, j'avais dit oui, c'est possible, mais avec un petit peu plus d'hésitation qu'en ce moment. Là, je suis vraiment confiant que c'est possible parce que Luther Burden, je pense qu'on va attendre avant de l'utiliser. Ramadunze, c'est un vrai receveur de passe explosif qui va. C'est pas une machine à target, c'est pas une machine à third down. Puis Colston Loveland, j'ai ralenti un petit peu en annuel sur lui. J'ai vraiment l'impression qu'on va y aller tranquillement pour son rôle. Comme on a parlé récemment pour Loveland, c'est une autre histoire pour le Dynasty. Mais bon, pour DJ Moore, pour moi, c'est comme un ticket de loterie qui coûte 5$. Dans le pire des cas, tu vas gratter 5$. Fait que tu sais, c'est un choix quasi automatique. J'ai le même feeling en passant pour ton choix, toi. C'est comme, je comprends pas pourquoi ne pas prendre un joueur comme ça dans ton équipe. C'est vraiment facile. Oui, il y a d'autres wide qu'on aime à ce niveau-là. Tu sais, Jameson Williams, on l'aime beaucoup, DK Metcalf. Mais je vois un ceiling potentiel supérieur pour DJ Moore.
Très intéressant. Puis j'aime ton point, JP, de dire, dans le pire des cas, il va valoir le ADP. Tu sais, il sera pas plus bas que son ADP. Donc, son floor, tu vas en avoir, peu importe ce qui arrive, tu vas en avoir eu pour ton argent. Puis l'upside est là, définitivement. Puis on s'entend, le best case scenario, on rêve tous de le voir avoir le rôle d'Amon-Ra dans l'offense de Ben Johnson à Chicago. Si ça s'avère, écoute, là, ça peut devenir extrêmement juicy. Là.
Puis je pense pas qu'il est incapable. Tu sais, Amon-Ra, je le respecte beaucoup. Je pense que c'est un meilleur receveur de passe que DJ Moore. Je vais pas dire le contraire pour être cute, mais je pense qu'à court terme, fait que pour une année ou deux, DJ Moore est capable de jouer ce rôle-là avant que Burden soit prêt à prendre la relève.
Ouais, puis les flashs, en tout cas, il a monté quand même. Moi, je trouve que tu veux pas trop hausser les attentes, JP, mais les flashs que DJ Moore a montré à gauche et à droite dans sa carrière, il y a des habiletés quand même. C'est peut-être pas le full package élite, mais il y a des habiletés élites, ce gars-là. Il peut en faire plus que ce qu'il a été appelé à faire depuis le début de sa carrière, certainement, là.
Il est plus excitant pour un coach que pour quelqu'un qui regarde le football le dimanche. Puis c'est pas, je veux insulter personne en disant ça, c'est que c'est un receveur de passe efficace, zéro flashy. C'est ça que je veux dire par rapport à DJ Moore. Puis c'est exactement ce que Johnson veut.
Excellent. De mon côté, j'y vais avec un choix un petit peu plus risqué. On parle de Ricky Pearsall des 49ers de San Francisco. JP qui a bien hâte de savoir pourquoi j'ai choisi Ricky Pearsall, outre le fait que j'aime son nom. Là, vous commencez à avoir une tendance. De mon côté, Ricky Pearsall, d'abord, l'offensive des 49ers avec Shanahan, etc., toujours une offensive que j'aime avoir. J'aime investir dans cette offensive-là dans mes équipes de fantasy football. C'est une offensive qui va fonctionner, qui va rapporter. OK? À moins, bon, l'an dernier, il y en a qui pourraient dire que c'était plus difficile, il y a eu beaucoup de blessés. Oui, OK, mais là, ça, c'est des impondérables qu'on ne contrôle pas. Ça reste que Shanahan est un génie offensif qui se réinvente constamment, qui réussit constamment à surprendre les défensives adverses. Et cette année, ce que j'aime, bon, Deebo Samuel est parti, Brandon Ayuk est blessé, va revenir plus tard dans la saison. Donc, on ne parle pas d'une absence, là, il ne va pas juste manquer deux matchs, c'est peut-être 6, 7, 8 matchs à voir. Donc, il y a du temps devant lui, Ricky Pearsall, où est-ce qu'il, à part Kittle, il n'y a pas vraiment d'autres receveurs qui peuvent le menacer pour du volume, pour des targets. C'est un ancien choix de première ronde. L'équipe a investi quand même du draft capital en lui. Il va vouloir lui donner une chance de se faire valoir. Bref, tu sais, moi, ce n'est pas un gars que j'ai vu beaucoup de tape de lui depuis le début de sa carrière. On s'entend, je ne suis pas un analyste football à quasi temps plein comme notre ami JP ici. Mais niveau contexte, niveau opportunité, j'adore qu'est-ce qui se présente devant lui. Puis rappelons-nous, le remontons, il y a juste 2-3 ans, rappelons-nous les valeurs qu'on ramenait. Puis là, je vais donner l'exemple de Deebo Samuel. ce ne sera pas la même chose. Deebo Samuel, c'est un gadget player qui peut être utilisé tant comme receveur que porteur de ballon. Tu peux faire des jeux truqués avec lui. Puis Shanahan se faisait un plaisir fou de l'utiliser comme ça. Mais pensons à un Brandon Ayuk. Il a eu des bonnes saisons fantasy. Il a eu une certaine valeur. Deebo Samuel aussi, ce sera pas, tu sais, oui, McCaffrey va avoir un rôle important, mais il y a de l'espace à prendre dans cette attaque-là. Puis j'aime le contexte pour Ricky Purcell dans ce sens-là. J'aime les opportunités qu'il va avoir, surtout en début de saison. Donc, on s'entend, là, plus on s'est rapproché du début de la saison, plus son ADP a avancé. Au début, je pense qu'il sortait comme en 9e ronde, qui est une valeur vraiment, vraiment, vraiment super intéressante. Là, il est monté en 8e. Là, je pense que son ADP avoisine la fin de la 7e, quelque chose comme ça.
Ouais, en 7e, un peu partout.
On commence à le payer un petit peu plus cher, mettons, à Ricky Purcell, parce que là, en 7e ronde, on est dans un territoire où est-ce que c'est un gars que tu veux pouvoir starter peut-être comme flex. Là. Alors qu'avant, en 9e ronde, écoute, c'était un gars sur ton bench, donc c'était encore plus intéressant. Mais bon, pour toutes ces raisons-là, moi, c'est vraiment l'offensive des 49ers, l'opportunité qui se présente devant lui, son ancien capital de repêchage, etc. Tu mets tout ça ensemble, plus quand même un talent certain, le Ricky Purcell, c'est pas un pied de céleri. J'aime ce game. Il y a une partie gamble de ce choix-là. Tu sais, quand à place où est-ce qu'il sort autour de lui, il y a des gars, beaucoup de vétérans, des gars un petit peu plus safe. Mais si ça paye, ça peut être un coup de circuit, littéralement. Donc, j'adore ce choix-là cette année, Ricky Purcell.
On ne s'ostinera pas longtemps sur lui. Puis aussi, il y a eu une drôle de saison recrue parce qu'il a manqué les 6 premiers matchs de la saison. Il est arrivé blessé au camp. Puis il a pareil eu un 400 verges, 3 touchdowns qui est passé inaperçu. On l'utilisait...
Surtout en fin de saison, il y avait... d'utilisation.
Ouais, moi je pense qu'on préparait la saison prochaine. Puis aussi un autre facteur qui c'est de la spéculation puis un peu d'inconnu, mais Jawan Jennings, pas certain qu'il starte la première semaine. Un, en raison d'une blessure et de deux, une petite dispute de contrat. Puis ça, on pourrait passer un autre rant de JP là-dessus. Mais comme
les gars, puis leur dernière année de contrat qui.
Non, mais je peux-tu le faire?
Oh, oui, ben oui, JP, garde-toi. C'est ton podcast aussi, là, mon frère.
Bon, peu importe le sport, je suis tellement écœuré de voir un gars, ou même principe s'il y a du sport féminin, là, mais un gars qui reste une année de contrat pleine à jouer et qui fait des menaces de ne pas jouer sans un nouveau contrat. Il te reste une année. Fait que c'est correct si après ta dernière année de contrat, tu veux faire un boycott, puis tu veux exagérer, puis tu veux ci, tu veux ça, ou tu veux t'en aller, tu veux rester, peu importe. Mais il te reste une année, tu es sous contrat. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça m'écœure tellement, puis je suis très heureux de ne pas être un gestionnaire d'une équipe de football dans ce cas-là.
Tellement d'accord, JP. Puis, tu sais, en tout cas, honnêtement, on pourrait faire un épisode juste pour parler de ça, parce que je suis 100% d'accord avec toi. Puis honnêtement, à un moment donné, si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là, il y a toujours un gamble. Là. Tu signes un contrat, soit tu prends moins d'années puis tu bêtes sur toi-même, soit tu prends plus d'années, tu assures une certaine sécurité, mais tu vas peut-être devenir un bargain pour l'équipe qui t'a signé. À un moment donné, si tu veux pas que ça t'arrive, fais comme LeBron James. Signe des contrats d'un an, puis il va constamment maximiser ta valeur. Mais LeBron James réussit à le faire. Est-ce que Jawan Jennings va être capable de le faire? T'sais, en tout cas, c'est ouais, je suis assez d'accord avec toi. Fait que c'est plate, JP. Je pensais que tu avais envoyé ton CV pour être DG dans la NFL. Je pensais que ça s'en venait, mais non. Non, tu ne peux pas se ramasser avec les migraines qui viennent autour des négociations de contrats. JP, on se transporte vers notre troisième étoile, donc des gars qui sortent en 9e ronde et plus, des sleepers dans le jargon. JP, je vois le nom ici sur ta liste, un nom connu quand même, mais qui sort tellement tard cette année, qui devient un target comme sleeper.
Mais j'ai l'impression de tricher avec ce gars-là, pour être franc, parce que quand on se parlait de sleeper, c'était un gars qui, s'il hit, il hit ce gars-là, puis ça va tout valoir, mais... On ne s'attendait pas à un gars qui c'est un coup sûr. Mais pour moi, mon sleeper, c'est un coup sûr. C'est un QB qui est repêché 13e à sa position. En début de 10e ronde, il peut finir facilement top 6, top 7 si tout va bien. Puis
il
moi,
a fini runner-up, MVP, il y a 2 ans.
Oui, exactement. Et là, je parle bien sûr de Dak Prescott. Tout a été dit sur lui. On en a vraiment parlé dans l'épisode QB. On en a parlé dans l'épisode prédiction du passé quand on parlait des Cowboys de Dallas, qu'on s'attendait à une bonne année offensive à la Bengals 2024 en raison d'une mauvaise défensive. Et une grosse nouvelle est sortie il y a quelques jours, Micah Parsons.
Oh my God, ouais.
Possiblement.
JP qui m'a envoyé ça.
Ouais.
J'avais rarement vu JP aussi énervé que ça. Je pense qu'à 7 ans, devant le sapin de Noël, il n'était pas autant énervé. Là.
Impossible. Mais, mais tout ça pour dire, c'était leur meilleur joueur défensif, assurément. Ouais. Et là, il s'en va à Green Bay. Fait que chapeau aux Packers.
Avec une défensive que tu voyais déjà, JP, comme une merdique. Des pires de la ligue.
Ouais.
Échange leur meilleur joueur.
Oui, c'est équation parfaite à faire. 1 plus 1 égale 0. Donc, je m'attends à tout pour l'offensive des Cowboys. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer au niveau des porteurs de ballon. C'est un petit peu... ça manque de clarté un petit peu, même si on se doute, nous, que ça va être un peu du Javonte Williams, en tout cas, en début d'année. Mais bref, par la passe, c'est clair. Tout passe par Dak Prescott. Et ça fait vraiment longtemps, si c'est même jamais arrivé, qu'il y a eu autant des bonnes armes à leur pic de carrière avec Pickens, Lamb et Ferguson. Trois gars dans le même range d'âge, fait que mi-vingtaine, tous en santé, dans des rôles significatifs et différents. Fait que moi, je pense que l'attaque va être monstrueuse.
Malade. Puis, tu sais, je pense que des matchs où Prescott va finir avec 50 plus tentatives de passe, il va en avoir beaucoup cette année. Donc, ça pourrait être payant. Très hâte de voir ça. De mon côté, j'y vais vers un choix plus typique sleeper, un joueur dont on a quand même beaucoup parlé ici à Fantasy Moneyball, un des préférés de JP dans son année de repêchage à sa position comme porteur de ballon. Un joueur qui a énormément impressionné au Combine de par ses qualités athlétiques. Il y a un certain buzz autour de lui depuis, je dirais, un mois ou deux dans les différents drafts au niveau fantasy. On parle ici, puis dernier point aussi très important de mentionner, un nom très, très cool, Bashaul Tuten, le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville. Il y a quand même deux gars en avant de lui sur la depth chart. Donc, on parle de Travis Etienne et de Tank Bigsby. Donc, il n'y a aucune garantie ici. Quand on parle, tu sais, Dak Prescott, ton sleeper, JP, dans le pire des cas, il va finir 13e QB à sa position. Il finira pas 40e QB. Bashaul Tuten, c'est pas impossible qu'il n'y ait aucun match cette année qui soit startable en fantasy. Là. C'est vraiment un d'or pur, mais niveau upside, l'upside est là. T'sais, c'est un joueur, sa carrière, tu pourras en parler beaucoup mieux que moi, JP, mais de ce qu'on connaît de lui, c'est un joueur très explosif. C'est un joueur qui excelle quand on lui donne de l'espace. Un joueur très rapide, comme je le disais, de beaucoup de qualité athlétique. Donc, un joueur qui peut là, vraiment partir, go to the house, 70 verges, let's go, any given play. Mais c'est comme je dis, un joueur qui a deux joueurs devant lui sur la depth chart. Mais moi, cette année, ce que j'aime, pourquoi j'aime personnellement ce d'or-là par rapport à d'autres, d'abord, c'est une offensive que je pense qui va s'améliorer cette année avec l'arrivée de Liam Cohen comme coach. Je ne m'attends pas à une offensive top 5 NFL, mais je m'attends à une offensive moins inapte qu'on a vu, disons, dans les dernières saisons. Il y a quand même, bon, il y a Brian Thomas, il y a Travis Hunter qui a été repêché. Il commence à avoir des weapons intéressants, mais au niveau du backfield, je pense pas qu'il y a aucun, tu sais, je pense pas tant que Etienne, que Bigsby, que les coachs soient en amour avec eux. Etienne, on le sait, c'est un joueur qui a énormément déçu, qui a été énormément constant dans les dernières années. Tank Bigsby n'a pas été mauvais l'an dernier, mais je ne suis pas sûr que c'est un gars qui a montré l'étoffe d'un futur porteur de ballon dominant dans la NFL. Vraiment pas. Peut-être un change of pace back utile, mais pas loin d'être un gars qui va pouvoir être le partant match après match après match. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va se produire, mais dans ma tête, je pense à la situation d'un peu de Bucky Irving l'an dernier avec les Buccaneers. Il y avait deux gars devant lui sur la depth chart, Bucky Irving. Il était loin d'être assuré de pouvoir prendre la job, mais il y a eu des blessures, il y a eu des opportunités. Il a fait beaucoup avec les opportunités qu'on lui a données. Son rôle a grandi au fur et à mesure de la saison. Fait que Bashaul Tuten, je le repêche, je me ferme les yeux, puis je rêve à un Bashaul Tuten qui est rendu starter des Jaguars week 8, week 9 peut-être. Je ne m'attends pas à un gars que demain matin, je vais le mettre dans mon flex, comme je disais. Mais j'aime le talent, j'aime l'explosivité de ce gars-là. Il y a de la place dans ce backfield-là pour monter, pour prendre l'espace. Donc, en gros, ça ressemble à ça un peu. Puis c'est beaucoup basé, je pense. Si on n'avait pas ce nouveau coach-là, pas certain que j'aimerais autant le gamble. Là, c'est un nouveau coach. C'est un gars qui. C'est pas lui qui a repêché Etienne, c'est pas lui qui a repêché Bigsby. Il n'y a pas. OK, je sais, tu vas me dire. Mais ça reste que c'est un. Il n'y a pas d'attachement émotif envers personne dans ce backfield-là. Il n'y en a pas plus. Je ne dis pas qu'il y en a plus envers Tuten, mais. C'est pas comme si ça faisait 4 ans et qu'il était allé à la guerre avec ces gars-là, puis il avait gagné des matchs de série, puis là, il y avait un respect qui s'est installé. Là, c'est tout nouveau. Fait que si Tootoon est celui qui est le plus explosif, si Tootoon montre des choses puis amène un certain côté dynamique à cette offensive-là, je suis très, très, très confiant que les coachs vont y en donner plus, vont y en donner plus, vont y en donner plus.
100%. Puis tu sais, je riais quand tu disais que c'est peut-être son gars, puis Bigsby et Etienne, c'est pas des gars qui ont été draftés sous Cohen. Tu sais qu'est-ce que je voulais dire. C'est par 100%. Rapport à la direction et les choix de repêchage. Ouais. Mais là-dessus, je riais parce que oui, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a une discussion entre directeurs généraux et les coachs pour savoir quel genre de porteur de ballon ils voulaient. Puis Tootoon, écoute, c'est un gros gamble. Moi, quand je l'avais évalué au mois d'avril, avant le repêchage de la NFL, c'est le joueur qui me faisait le plus penser à un devant Nathan. Parce que c'est un gars que s'il n'y a pas d'espace, ce gars-là est inutile. Mm. Ça va être le pire running back de la NFL. Mais avec l'espace devant lui, tout est possible. Puis vous avez vu devant Nathan avec l'espace, qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est un gamble parfait dans la vraie vie pour une équipe de la NFL. Puis c'en est un au niveau fantasy aussi. Puis quand on disait qu'on aimait des dards, que si le gars il hit, mais c'est ça pour Tootoon. Si finalement, il n'y a aucun rôle, puis il ne sert absolument à rien, puis même qu'il n'est même pas habillé, parce que ça ne serait pas impossible dans son cas. Mais écoute, mettez-le dans les waivers, c'est tout, puis ça n'a pas coûté grand-chose. Mais si le gars il hit, vous avez un running back partant que vous mettez dans votre alignement, même pas comme flex, comme partant.
100%.
Donc, écoute, moi, je suis en amour avec ça, puis il n'est pas trop tard, là, parce qu'il est troisième sur la depth chart pour de vrai, contrairement à tous ceux qu'on a parlé en début d'épisode. Mais il est encore temps d'aller chercher dans vos ligues. Je suis pas certain qu'il y ait un attachement si extrême que ça des pouleuses. Mmh.
Très bon point, JP. Fait que, ben écoute, avec ce dernier choix-là, c'est ce qui clôt nos trois étoiles en fantasy pour la saison. Très hâte, n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback si vous êtes d'accord avec nos choix, si vous trouvez qu'on est complètement champ gauche, si vous avez vous-même des choix, des joueurs que vous aimez particulièrement, que vous aimeriez ça qu'on en discute. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires sur nos différents réseaux sociaux, Patreon, Instagram, etc. On aimerait ça le savoir. Puis ben, on aimerait ça jaser de ça avec vous autres. Fait que on arrête ça là-dessus, JP. Merci d'avoir été là. Puis ben, on se dit au prochain épisode. Encore une fois cette semaine, deux épisodes en deux jours. Donc, on se dit à demain, tout le monde.